Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de commencer ce cours, je rappelle que j'ai des places pour les retraites du 7 au 12 septembre, du 26 septembre au 3 octobre et du 19 au 24 octobre. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, pour que je puisse m'organiser, surtout à propos des locations de gîtes ou d'endroits où je prêche la retraite. Nous en sommes maintenant au chapitre 2 de Saint-Luc, l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 2, après avoir terminé le premier chapitre qui est magnifique. Chapitre 2 est aussi très beau. C'est l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, donc sur le polycopier qui comprend les chapitres 1 à 5, commentaire des Pères de l'Église sur les chapitres 1 à 5, à la page 18. Il arriva qu'en ces jours, dit Saint-Luc, il parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie. Donc les Pères font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu naître dans un temps de paix, au moins de paix relative. Pourquoi ? Parce que la preuve, c'est qu'on ne conduit pas un recensement en temps de guerre, évidemment. Pourquoi en temps de paix ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Il est venu apporter la paix au monde, en l'an 754 de Rome. Il est donc né pendant un temps de paix. Alors, les Pères de l'Église font un rapprochement entre le recensement ordonné par Cyrinus, gouverneur de Syrie, ou fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie, sur ordre de César Auguste. Ils font une comparaison entre le recensement des corps et le recensement des âmes. César Auguste fait le recensement des corps pour savoir combien de personnes vivaient dans son royaume. En fait, comprenez que c'est simplement une histoire de gros sous. Il fallait venir se faire recenser dans le lieu d'origine de sa famille. À chaque fois, il fallait payer évidemment un impôt. Un impôt pour chaque personne qui venait se faire recenser. Mais les Pères de l'Église expliquent que ce qui compte, c'est le recensement des âmes. Et que la profession de foi chrétienne représente ce recensement des âmes, parce que tous viennent s'y soumettre, parce que nul n'y est excepté. Notre Seigneur Jésus-Christ a le droit de faire ce recensement n'importe quand. Pourquoi ? Parce que lui est créateur de toutes ces âmes. Toutes les âmes ayant été créées par Dieu, Dieu a un droit strict sur ces âmes. Rappelez-vous, c'est la base du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est créateur et rédempteur et à ce double titre a un droit sur nos âmes. Il a un droit sur nos âmes en tant que créateur, par droit de nature. Il a un droit sur nos âmes également en tant il a un droit sur nos âmes en tant que créateur par droit de nature, et il a un droit également sur nos âmes en tant que rédempteur par droit de conquête. Donc tous les hommes sont tenus de venir se soumettre à ce recensement des âmes, parce que nul n'en est excepté. Rappelons-nous qu'un jour notre Seigneur Jésus-Christ viendra à nous et nous demandera de rendre compte de notre gestion, qu'avons-nous fait de notre intelligence, de notre volonté, des possibilités que Dieu nous a données d'atteindre le vrai. Et de toute façon, il y aura ce recensement au moment de la mort. Sous l'empire de Jésus-Christ, disent les pères qui nous gouvernent par les docteurs, c'est-à-dire les chefs de son Église, par le pape, nous devons nous soumettre au recensement qui a pour objet la pratique de la justice. Un recensement, c'est quoi? C'est pas simplement un recensement physique, mais un recensement d'ordre moral. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai pratiqué cette vertu de justice? Est-ce que j'ai utilisé les dons que le bon Dieu m'avait donnés pour monter vers le Seigneur, vers le Sauveur, vers mon Créateur et Rédempteur? Est-ce que j'ai utilisé les dons que le bon Dieu m'avait préparés, m'avait donnés, pour augmenter en moi l'amour du bon Dieu? Est-ce que le jour de ma mort, j'aurai plus d'amour pour Dieu que le jour de mon baptême? Bon, le jour de mon baptême, si j'étais baptisé comme bébé, je ne pouvais pas éliciter cet amour de Dieu. Mais c'est important de comprendre ces choses-là. On peut utiliser les comparaisons pour nous aider à comprendre l'importance de ce que disent ici les pères. Imaginez, il y a une personne qui est mariée, deux personnes qui sont mariées, épousées, qui vivent ensemble depuis 20, 30, 40 ans, qui ont élevé des enfants. Eh bien, il faut souvent que les époux se posent cette question. Est-ce que nous nous aimons plus aujourd'hui qu'au jour de notre mariage? Est-ce que j'ai plus d'amour pour mon épouse aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après notre mariage, que le jour de mon mariage, quand je me suis marié, que j'ai dit oui devant Dieu? Est-ce que j'ai plus d'amour pour mon épouse? Est-ce que j'ai plus d'amour pour mon épouse qu'au jour de mon mariage? Et si je n'ai pas plus d'amour pour elle et pour lui, ou pour lui, eh bien, il manque quelque chose à cet amour. Bon, c'est la même chose pour nous devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut souvent nous poser cette question. Est-ce que j'aime aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, plus qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans? Et souvent, malheureusement, j'aide des gens qui sont un petit peu en difficulté matrimoniale, quand j'essaie de les aider au moins, je leur pose cette question, est-ce que vous vous aimez plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Souvent, la réponse est non. Et même quand je vais plus directement au but et que je leur dis, est-ce que si vous aviez à refaire ce mariage, est-ce que vous réépouseriez le même? Est-ce que vous réépouseriez la même? Combien de fois, malheureusement, les gens m'ont avoué, ben non, monsieur l'abbé, j'ai fait une grosse bêtise et je ne recommencerai pas cette même bêtise. Ils répondent à ma question quand je la pose en privé. C'est évident que je ne vais pas poser ce genre de questions devant les deux personnes ensemble, parce que ça, je ne veux pas provoquer des histoires dans le ménage. Eh bien, c'est pareil pour notre Seigneur. À partir du moment où je suis baptisé, je fais partie de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut que je me pose cette question. Est-ce que depuis que je suis membre de cette armée, mon amour pour mon Sauveur, pour mon Rédempteur, est-ce que cet amour a augmenté ou diminué? Est-ce que j'aime plus notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui qu'hier? Et si je constate que je reste toujours aussi froid, aussi tiède au moins, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous n'êtes ni froid, ni chaud, mais tiède, je vous vomirai de ma bouche. Le Christ, donc, fut inscrit sur un registre commun à tous pour sanctifier tous les hommes, disent le Père. Il fut compris dans le dénombrement de tout l'univers pour entrer en communion avec tous les hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ a un droit strict sur chacun d'entre nous parce qu'il est notre Créateur, et un deuxième droit strict sur nous parce qu'il est notre Rédempteur. Encore une fois, c'est là le fondement de tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est certainement un des dogmes de foi les plus niés aujourd'hui et un des dogmes de foi les plus importants. Il faut surtout insister sur les points de doctrine qui sont liés aujourd'hui par le monde moderne. Le Fils de Dieu voulut donc naître d'une vierge et montrer ainsi combien la gloire de la virginité lui était chère. Il voulut aussi naître dans un temps de paix générale parce qu'il devait enseigner aux hommes à chercher la paix et qu'il daigne visiter ceux qui aiment la paix. Encore une fois, il est prince de la paix. Cette paix, malheureusement, cette paix du Christ est rejetée par le monde. Il y a une double paix, si vous voulez. Soit nous aurons la paix du Christ, soit nous aurons la paix avec le monde. Et malheureusement, lorsque la paix du Christ est là, le monde ne l'accepte pas. Et donc, soit c'est la guerre, soit c'est la paix. Si notre Seigneur Jésus-Christ est là, vit dans une société, le monde va s'acharner contre cette société centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, si le monde vit dans la paix avec lui-même, c'est-à-dire que le monde vit dans la paix parce qu'il ignore notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique va devoir littéralement s'acharner contre ce monde pour introduire la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi y a-t-il une incompatibilité totale entre la paix donnée par notre Seigneur Jésus-Christ et la paix donnée par le monde? Tout simplement parce que la paix donnée par le monde est une paix centrée sur l'homme. La paix donnée par notre Seigneur Jésus-Christ est une paix centrée sur Dieu. Une incompatibilité totale. La paix centrée sur Dieu est une paix qui va découler de la croix. La paix centrée sur l'homme, la paix du monde, est une paix qui va être centrée sur les trois concupiscences. L'orgueil, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair. Soit j'adore notre Seigneur Jésus-Christ, soit j'adore le monde et l'homme. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, personne ne peut servir Dieu et Mammon. Et donc cette paix à laquelle aspire notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle nous devons aspirer en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, est une paix qui est centrée sur le calvaire. Alors l'empereur Auguste avait eu une vision de cette Vierge à l'enfant, hein, un enfant qui imposerait silence aux oracles des idoles et qui avait été annoncé par les oracles païens. Donc c'est quelque chose de très bizarre. Il y a des oracles païens, par exemple les oracles des Sibylles, qui avaient parfois annoncé des choses vraies. Et donc l'empereur Auguste, un païen, avait une vision qui annonçait justement la naissance d'un enfant par le fait d'une vierge. Donc l'autel construit alors sous le titre de l'autel du premier-né de Dieu, qui avait été construit donc avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, deviendra sous Constantin l'Ara Coeli, l'autel du ciel. Une fontaine d'huile avait même jailli à Rome, car le Christ doit nous oindre de l'huile de la grâce. Donc, la paix du Christ est une paix qui amène à la grâce. La paix et la grâce sont donc fruits d'une même source. Cette source est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut souvent se poser cette question, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis en paix avec l'Église? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en révolte constante? Un pécheur, c'est quoi? Un pécheur, c'est quelqu'un qui est en révolte contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en révolte contre son Église. Et sachez une chose, comprenez bien une chose, c'est qu'on ne peut pas être heureux dans la vie si on est en guerre contre notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas à la fois être en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ et en paix avec le monde, c'est absolument impossible. Et c'est ça le drame du monde moderne. Le drame de l'Église de Vatican II, il est là. Le drame de l'Église de Vatican II consiste à vouloir essayer d'être à la fois en paix avec Dieu et en paix avec les hommes du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on peut pas être en paix à la fois avec des gens qui veulent tout centrer sur l'homme et en paix avec les gens qui veulent tout centrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, le monde a parfaitement compris. C'est pour cela que les modernistes, les républicains actuels, surtout en France, c'est très très clair, ont compris qu'il y avait entre le système des droits de l'homme, qui est le système de la République française, et le système des droits de Dieu, une incompatibilité totale. On ne peut pas à la fois vouloir adorer notre Seigneur Jésus-Christ et suivre sa loi, la loi des droits de Dieu, la loi des 10 commandements, et à la fois suivre les droits de l'homme de la République française. C'est incompatible. Le seul fait que la République française tienne absolument mordicus à être laïque prouve cette incompatibilité. Ou on aura une politique centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, ou on aura une politique laïque. Une politique laïque, c'est une politique qui est fondée sur la haine du Christ, la haine de Dieu. Verset 3 à 6 du chapitre 2 de Saint-Luc, tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était la maison de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Donc, Saint-Joseph et notre Sainte Vierge Marie, tous les deux, étaient de la famille de David. Donc ils devaient aller se faire recenser dans le lieu d'origine de leur famille, qui était Bethléem. Ici, le texte parle de la ville de David. Bethléem, en fait, Bethléem était surtout à l'époque un petit village. Pendant qu'ils étaient là, les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Donc notre Seigneur va naître à Bethléem. Alors, de même que le recensement ordonné par César Auguste représente le recensement des âmes que notre Seigneur Jésus-Christ va faire sur chacun d'entre nous, de la même façon, la taxe à payer au gouverneur, au représentant du gouverneur, lorsqu'on fait ce recensement physique, représente une autre taxe que notre Seigneur Jésus-Christ est venu cette fois-ci payer pour nous. Dans le recensement ordonné par César Auguste, chacun devait payer un impôt. Eh bien, cet impôt représente un autre impôt qui va nous libérer de l'esclavage du démon. N'oubliez pas, je vous l'ai souvent expliqué, c'est l'enseignement des pères de l'Église, que l'homme est parfaitement capable de se vendre, mais il est incapable de se racheter. Il se vend, encore une fois, il se vend au démon par le péché. Mais une fois qu'il est vendu au démon, lorsqu'on se vend à quelqu'un, on devient esclave de la personne qui nous a acheté. Donc, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vienne lui-même nous racheter parce que nous sommes incapables de nous racheter par nous-mêmes. Voilà le texte des Pères. La taxe à payer est le symbole de la venue du Christ pour nous libérer de l'esclavage du démon et soumettre le monde à sa foi par l'efficacité de sa grâce. Donc, où on devient littéralement esclave volontaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ou on reste esclave obligé du démon. Notre Seigneur Jésus-Christ est propriétaire de notre âme. Donc, il exige une obéissance de notre part. Mais cette obéissance est volontaire. Donc, nous devenons esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ, mais volontairement, c'est nous-mêmes qui, utilisant notre propre volonté, allons placer cette volonté dans la volonté divine. Au contraire, lorsqu'on est esclave du démon, c'est toujours involontaire, au moins au bout d'un certain temps. Malheureusement, la plupart des gens qui se mettent entre les mains du démon se mettent entre les mains du démon volontairement au début, puis une fois qu'ils ont compris leur malheur et leur erreur, ils cherchent à s'en tirer, mais souvent ils n'y arrivent plus, parce qu'ils sont pris dans le jeu du démon et n'arrivent plus à sortir de son influence. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est donc celui qui va nous libérer des chaînes de l'esclavage du démon. N'oublions pas que quelqu'un est libre dans la mesure où il est libéré de ses chaînes. Et ces chaînes, elles sont au nombre de trois, rappelez-vous, concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil, concupiscence de la chair. Donc celui qui est libre, la personne qui est libre, est la personne qui s'est coupée de ces trois chaînes. Donc la seule personne vraiment libre, c'est une personne qui est coupée de la concupiscence de la chair, de la concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil. Donc on se coupe de la concupiscence de l'orgueil par l'esprit d'obéissance, on se coupe de la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté, et on se coupe de la concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté. Donc quelqu'un qui pratique l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, est quelqu'un qui va se libérer, qui va devenir vraiment libre. Et ça, c'est une chose que le monde est absolument incapable de comprendre. Le monde se jette à corps perdu dans les trois concupiscences, la chair, les yeux, l'orgueil, en pensant trouver de la liberté. En fait, il trouve l'esclavage. Le monde va en plus penser que ceux qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ deviennent esclaves, alors qu'en fait, ceux qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ trouvent la liberté. Donc, quelqu'un est vraiment libre dans la mesure où il est coupé, il se coupe des concupiscences. Se coupant des concupiscences, il va se couper de l'influence du monde, l'influence du démon, et il va pouvoir monter vers le bon Dieu. Comme si on voulait un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a une file à la patte, si on coupe le fil, il peut voler vers le ciel, vers le soleil. Mais c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens qui sont parfaitement libres sont les gens qui sont sous les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Les moines sont donc les gens parfaitement libres. On peut même aller plus loin que ça en disant que les moines qui vivent leur vocation sont les seules personnes vraiment libres. Parce que par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, ils ont coupé les trois chaînes des concupiscences. Mais le bon Dieu a permis que même ceux qui ne sont pas moines, ceux qui vivent dans le monde, ou des religieux qui ne sont pas moines, c'est le cas par exemple une pauvre personne, je suis prêtre séculier, je ne suis pas moine, eh bien à partir du moment où je pratique, où les gens pratiquent, dans le monde, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance, eh bien, elle se coupe d'une certaine façon de ces trois chaînes du démon. Et mieux il pratique l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, plus profonde est leur conversion et donc plus heureux ils sont. Alors évidemment, le bon Dieu ne demande pas à ceux qui vivent dans le monde de vivre comme des moines. C'est pas du tout ce que vous demande, ce que demande le bon Dieu. Parfois, on a des gens qui, surtout après les retraites, on voit ça. C'est ça que j'exige absolument quand je prêche les retraites, à la fin des retraites, de voir la résolution des gens, que les retraites ont prises pour être sûr que ces résolutions sont prudentes. Vous voyez? On ne peut pas demander à quelqu'un qui vit dans le monde de pratiquer les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. C'est impossible. Sauf dans certains cas très particuliers. J'ai connu certaines personnes qui vivent dans le monde, qui ont souhaité avoir, être sous un vœu de pauvre, de, par exemple de chasteté privée. C'est possible, notamment pour les gens non mariés. Dans certains cas très particuliers, même pour des gens mariés qui ont déjà un certain âge. N'oubliez pas que la très sainte Vierge Marie était épouse de Saint Joseph, ils étaient donc mariés. C'est bien marqué dans le chapitre 2, verset 5. Ils sont allés se faire enregistrer, Joseph et Marie, son épouse. Donc ils étaient mariés, mais avec un vœu de chasteté. Cependant, c'est une situation exceptionnelle. Le bon Dieu peut demander, dans certains cas, des choses de ce genre. Mais c'est assez rare. Par exemple, demain, c'est le 17 juillet, j'enregistre cette conférence le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet. Demain, c'est le 17 juillet, c'est la fête de Saint-Alexis. C'est un exemple. Saint-Alexis, un cas exceptionnel. Le bon Dieu a permis que le lendemain, le jour de son mariage même, juste après avoir été marié, un véritable mariage religieux, il a quitté son épouse pour aller devenir pèlerin, d'aller dans tous les lieux de pèlerinage possibles et imaginables, et il a vécu comme ça pendant, caché comme pèlerin, en faisant des pénitences incroyables, après avoir quitté son épouse. Ce sont évidemment des situations tout à fait exceptionnelles. Il ne faut pas croire que parce que Saint Alexis a fait cela, ça veut dire que le bon Dieu veut que vous fassiez la même chose. Il faut admirer, pas forcément imiter, sauf cas très particuliers où le bon Dieu manifeste sa volonté pour deux personnes qui sont légitimement mariées de se séparer. Il y a un autre cas très connu en Suisse avec Saint Nicolas de Flux, qui lui avait une famille nombreuse pourtant, eh bien, le bon Dieu lui a demandé de quitter sa famille pour devenir ermite. Et le pire, c'est qu'il allait, il n'était pas très loin de l'endroit où vivait sa famille, dans une vallée un peu éloignée, mais de l'endroit où il vivait, comme ermite, il voyait l'endroit où vivait sa famille. Bon, ce sont des cas exceptionnels. Donc, encore une fois, soyons prudents dans l'usage même de la vertu de pénitence. N'oublions pas que le démon est un malin, c'est le singe de Dieu, il est capable de tenter les gens avec des tentations sous apparence de bien. J'ai connu parfois des gens qui étaient imprudents dans le choix de leur pénitence parce qu'ils voulaient littéralement vivre dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, mais à un degré qui ne correspondait manifestement pas à leur devoir d'État. On se sanctifie d'abord par la pratique de son devoir d'État. Il peut y avoir certains cas où le bon Dieu peut demander à certaines personnes qui sont dans le monde de pratiquer littéralement jusqu'à un certain degré, presque un vœu de pauvreté ou de chasteté ou de l'obéissance, sont des cas très spéciaux. En principe, dans le monde, on se sanctifie par ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit de l'obéissance qui sont obligatoires pour tout le monde, tous les catholiques. Par contre, les vœux de pauvreté, de chasteté et de l'obéissance ne sont obligatoires que pour les moines. Alors, les pères ici citent la prophétie du prophète Michée, chapitre 5, verset 2, qui annonçait la naissance du Christ à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Une des multiples prophéties sur la naissance de notre Seigneur, justement, est dans un des petits prophètes, Michée, qui avait annoncé que le Christ, le Fils de Dieu, naîtrait à Bethléem. On appelle la maison du pain, pourquoi? Parce qu'il est le pain vivant descendu du ciel pour nourrir nos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ va se donner en nourriture par la Sainte Eucharistie pour faire vivre nos âmes. De la même façon qu'une âme ne peut pas survivre, spirituellement parlant, sans cette nourriture qui correspond à la grâce de la Sainte Eucharistie, de la même façon, un corps a besoin de pain physique pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre. Donc chacun des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui reçoit en lui la fleur du Verbe devient la maison du Père éternel. Donc les pères font remarquer que chaque jour encore, le Fils de Dieu est conçu par la foi dans un sein virginal, c'est-à-dire dans l'âme des croyants, et est engendré par le baptême. Donc les pères de l'Église font une très belle comparaison entre le mystère de l'incarnation qui va se réaliser à Bethléem, je veux dire le mystère de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui va se réaliser à Bethléem, et le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit vivre dans notre âme par la grâce sanctifiante. C'est-à-dire de même que le 25 mars, notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie par le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire par l'union de la divinité qui vient de la Sainte Trinité avec l'humanité qui vient de notre Sainte Vierge Marie. Bien, de la même façon, une âme en état de grâce enfante notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une âme en état de grâce, une âme qui retrouve l'état de grâce par une bonne confession, par exemple, va analogiquement, d'une certaine façon, renouveler le mystère de l'incarnation, mais il s'agit d'enfanter aussi notre Seigneur Jésus-Christ en restant en état de grâce. Donc, la grâce qui apparaît dans une âme qui était dans le péché après une bonne confession représente l'annonciation, le mystère de l'incarnation, et la grâce qui demeure dans une âme qui utilise les sacrements pour justement rester en état de grâce, cette fois-ci, analogiquement, ça s'apparente à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement pour nous d'enfanter notre Seigneur Jésus-Christ en nous par la grâce sanctifiante, il s'agit de la garder, cette grâce sanctifiante. Et donc, cette grâce sanctifiante qui demeure dans notre âme représente la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem donc symbolise également la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut pas simplement apparaître une première fois dans notre âme, mais il veut y demeurer, il veut y vivre. Donc chaque jour encore, je répète cette phrase qui est très belle des pères, le Fils de Dieu est conçu par la foi dans un sein virginal, c'est-à-dire dans l'âme des croyants, et est engendré par le baptême. Donc par le baptême, notre âme devient la crèche de Bethléem. Par le baptême, notre âme devrait devenir un petit peu comme l'âme de la très sainte Vierge Marie, un tabernacle vivant. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, pas pour rien qu'il l'a dit, il reproche aux hommes d'avoir fait de notre âme une caverne de voleurs. Donc notre âme est un tabernacle et le temple de Dieu, et par le péché, on transforme ce temple de Dieu en caverne de voleurs. Mais si au contraire, je transforme une caverne de voleurs en temple de Dieu par une bonne confession, à ce moment-là, je renouvelle en moi le mystère de l'incarnation. À moi d'aller de ne pas me contenter de l'incarnation, mais d'aller jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire d'enfanter, en conservant cette grâce, d'enfanter notre Seigneur Jésus-Christ en mon âme. Et il faut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à l'incarnation, on va à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le 25 décembre, il faut aller jusqu'au calvaire. Le calvaire, c'est le Vendredi Saint. Donc, chaque jour, la Sainte Église, à la suite de ses docteurs, se dégage du cercle toujours agité de la vie mondaine. C'est la signification du mot Galilée, au verset 4. Joseph monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Donc, chaque jour, la Sainte Église se dégage du cercle toujours agité de la vie mondaine pour venir dans la ville de Juda, c'est-à-dire dans la confession et la louange, et payer au roi éternel le tribut de sa piété. De même que Saint Joseph est venu à Nazareth, à Bethléem, pardon. De Nazareth, il est monté à Bethléem pour y payer le tribut qui était demandé par l'édit de César Auguste. De la même façon, eh bien, nous devons, nous aussi, payer au roi éternel le tribut de notre piété. Et le tribut de notre piété est payé par le fait que nous sommes en état de grâce. Si mon âme est en état de grâce, je paye constamment, jour après jour, le tribut de ma piété à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de perdre cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Si je vis un tas de péchés mortels, je perds à ce moment-là cette ressemblance qui est en moi. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pas simplement à l'image de Dieu, parce qu'il a une âme, mais à la ressemblance de Dieu, parce qu'il doit conserver la charité. Il ne s'agit pas d'avoir la charité une bonne fois, une fois au baptême, il s'agit de la conserver dans notre âme. Donc c'est ce que disent les pères. Donc la Sainte Église se dégage du cercle de la vie mondaine pour venir dans la ville de Juda et payer au roi éternel le tribut de sa piété. Donc à chaque fois que je communie un état de grâce, je paye au roi éternel, au roi des rois, le tribut de ma piété. Versets 7 et 8 du chapitre 2 de Saint-Luc. Marie enfanta son fils premier-né et elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient l'éveil de la nuit à la garde de leur troupeau. Ici, cette phrase incroyable sur laquelle il faut souvent méditer. Il n'y avait pas de place chez eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Cela doit être comparé à une autre phrase qu'on trouve au début de l'évangile de Saint Jean, qu'on lit à la fin de chaque messe, au prologue de Saint Jean, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » C'est quelque chose d'ahurissant. Notre Seigneur Jésus-Christ a créé les âmes, il vient dans ses âmes, mais il ne trouve pas dans ses âmes une place pour lui. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, parce que je refuse notre Seigneur Jésus-Christ par le péché, et par le péché, je mets le bon Dieu dehors. Donc non seulement il n'y a pas de place pour lui, mais en plus je le mets dehors. Donc il faut réfléchir à cette place, à cette phrase, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, pour se poser cette question toute simple, est-ce que dans mon âme, il y a de la place pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est bienvenu dans mon âme ou est-ce qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir dans mon âme parce que la porte de mon âme est toujours fermée à double tour ou parce que la voie d'accès à la maison qui représente mon âme est tellement encombrée de ronces, d'épines et de mauvaises herbes que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas approcher de la maison. Alors nous en sommes à la page 19. En haut de la page 19, celle qui a déposé dans notre nature le germe de la mort par sa désobéissance a été condamnée à enfanter dans la douleur. Donc la mère de celui qui est la vie devait enfanter dans la joie. Donc la première Ève a été une mère qui a apporté la mort au monde. La deuxième Ève est celle qui va apporter la joie au monde, la résurrection au monde. La première Ève, la première mère des vivants, c'est l'épouse d'Adam, Ève, la très sainte Vierge Marie, elle est la seconde Ève qui va transformer une naissance douloureuse en une naissance joyeuse. Les pères de l'Église font remarquer que le nom de la première femme, Ève, Eva en latin, est le contraire du premier mot de l'annonce de Saint Gabriel à la très sainte Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena. Ave Eva. Eva, c'est Ève qui a amené la mort. Ave représente la Sainte Vierge qui a amené la vie. Donc le Christ entre dans cette vie mortelle par la pureté incorruptible d'une Vierge à l'époque de l'année où les ténèbres commencent à diminuer. Et la longueur des nuits cède nécessairement devant les flots de lumière que répand l'astre du jour. Donc, la fin du mois de décembre représente le temps, la durée de la nuit est la plus longue de l'année. Et on monte jusqu'au mois de juin, où la durée de la nuit va diminuer, la durée du jour va augmenter. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire la nuit du péché, et donc c'est pour cela qu'il a voulu naître au moment où les jours commençaient à rallonger. Ici, il y a une belle phrase des pères de l'Église. « Notre-Dame est plus mère que les autres, car son enfant vient totalement d'elle, alors que chez les autres mères, la substance de l'enfant vient aussi du Père. » Les hommes arrivent dans le sein de leur mère par l'union de spermatozoïde masculin et de l'ovule féminin. Chez la très sainte Vierge Marie, il n'y a pas l'intervention d'homme Et donc, toute en elle, toute l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, littéralement, vient d'elle. Donc, chez la Très Sainte Vierge Marie, la substance de l'enfant vient exclusivement de la mère. Le Saint-Esprit, cette belle phrase des Pères, a agi comme le rayon de soleil pénètre le verre sans détruire le verre. Notre Dame est donc comparée, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ va être comparée, je vous l'ai souvent déjà dit, va être comparée à un rayon de soleil qui passe à travers une pièce de verre sans détruire le verre traversé par ce rayon de soleil. Notre-Dame est également comparée au buisson de Moïse qui brûle dans le désert sans être consumé. Rappelez-vous Moïse, au début de sa vie apostolique, qui gardait les brebis de son beau-frère, Jéthro, et qui dans le désert est surpris par la vision d'un buisson en plein désert qui brûle, mais qui brûle sans se consumer. Bien, les pères de l'Église disent que ce buisson qui brûle sans se consumer représente le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire le mystère de l'incarnation qui unit notre Seigneur Jésus-Christ qui naît d'une vierge sans détruire la virginité. Donc le buisson qui brûle sans se consumer, le feu du buisson représente la divinité et le fait que ce buisson ne se consume pas représente le fait que la Très Sainte Vierge Marie va garder sa virginité. Elle est vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette phrase est très belle. Notre-Dame est comparée ainsi au buisson de Moïse qui brûle dans le désert sans être consumé. Et si je vis en état de grâce, eh bien, j'ai en moi une partie de cette force. Donc, si mon âme est en état de grâce, mon âme, si vous voulez, devient comme le buisson de Moïse qui brûle sans être consumé. Au contraire, si je commets un péché, à ce moment-là, mon âme qui était incorruptible va devenir corruptible par le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne donc pour nous enseigner l'humilité par l'exemple, voulant devenir un des nôtres. Il prend notre chair pour que nous puissions le voir de nos yeux et l'entendre de nos oreilles. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous était apparu dans toute la gloire de sa divinité, eh bien nous aurions été complètement paniqués. On voit très bien, je vous l'ai déjà expliqué souvent, au moment de la transfiguration, au sommet du mont Tabor, comment les apôtres ont été paniqués par la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dévoilait une toute petite partie de sa divinité lorsque son visage a resplendi comme le soleil et que ses vêtements sont devenus aussi éclatants que la neige en plein soleil. Donc, creusons en nous, disent les pères, les fondations de l'humilité afin d'arriver au sommet de la charité. Devant un tel acte d'amour, les hommes les plus durs de cœur seront obligés de le mettre en retour. Quand on médite la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on comprend l'extraordinaire amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, qui accepte non seulement de devenir aussi grand qu'une tête d'épingle au début dans le sein de sa mère, la Très Sainte Vierge Marie, mais qui accepte d'être enfermé dans ce lieu, lui qui est créateur du ciel et de la terre, qui a lancé les étoiles dans le firmament et qui a créé l'univers, accepte d'être enfermé dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie pendant 9 mois. Et ensuite, il va naître à Bethléem, et là encore, il va devenir totalement dépendant de notre Sainte Vierge Marie, ayant besoin des soins maternels de notre Sainte Vierge Marie. Ça montre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Comment peut-on imaginer justement un Dieu qui nous aime à un tel degré d'accepter de s'anéantir à ce niveau-là? Et donc, la méditation du mystère de l'incarnation nous montre le degré d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et à cause de ce degré d'amour, eh bien, cette méditation va nous aider à rendre amour pour amour. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés à un tel degré, il faut que moi, j'accepte de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, donc de porter ma croix jusqu'au calvaire. S'il y a des phrases magnifiques des pères, j'en cite 7 ici, il y en a d'autres, mais j'ai cité certaines phrases que j'ai trouvées dans la préparation de cours qui sont magnifiques. Donc, notre Seigneur s'est fait petit enfant pour que nous puissions devenir l'homme parfait. Il devient tout petit pour que nous puissions grandir. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ se cache littéralement sa divinité pour nous permettre de le suivre plus facilement. Il devient tout petit dans le sein de sa mère pour que nous puissions progresser dans l'amour du bon Dieu. Il a été entouré de l'ange pour que nous soyons libérés des liens de la mort. Donc les pères de l'Église font une comparaison, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, souvent, font une comparaison entre l'ange qui enserre les membres de notre Seigneur Jésus-Christ quand il est tout petit, à la naissance de notre Seigneur dans la grotte de Bethléem. Ils font une comparaison entre cet ange et le linceul de Turin qui va recevoir le corps mort de notre Seigneur Jésus-Christ après sa mort sur la croix le vendredi saint. Donc, en quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ va nous libérer par sa mort et sa résurrection, et il a commencé par nous libérer par sa naissance. Il est né dans une crèche pour que nous puissions être sur les autels. Donc la crèche représente l'autel. C'est pour cela que le bois de la crèche, disent les pères, représente le bois de la croix. Et donc la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la crèche de Bethléem représente une nouvelle naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix qui va libérer les hommes de leur esclavage dans lequel ils se sont donnés en se vendant aux démons par le péché. Donc on voit les différentes étapes, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à la crèche de Bethléem, puis la résurrection, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint. La troisième étape, c'est la messe. La messe n'étant rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc on voit cette chaîne, si vous voulez, qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence, premier barreau de la chaîne, c'est la grotte de Bethléem, deuxième barreau de la chaîne, c'est le sommet du calvaire, le Golgotha, et troisième barreau de l'échelle, c'est le barreau de la messe. La messe étant rien d'autre que le renouvellement, justement, à la fois de l'incarnation et de la rédemption. La sacrifice, ce n'est pas simplement le renouvellement du sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le renouvellement de l'incarnation. Parce qu'au moment où le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », verset pour vous, pour beaucoup, eh bien, au moment où le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie, les paroles de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur l'autel. Et donc, au moment précis où notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur l'autel, c'est là le renouvellement du mystère de l'incarnation. Et ensuite, le renouvellement du mystère de la rédemption, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix, lui va s'effectuer au moment de la consommation de la victime. C'est-à-dire au moment précis où le prêtre va consommer l'hostie consacrée, la communion des fidèles n'est pas nécessaire pour la validité de la messe, par contre, la communion du prêtre est nécessaire pour cette validité. Donc au moment précis où le prêtre va consommer le fruit du sacrifice, et notre Seigneur Jésus-Christ présent sur l'autel, sous la forme du pain et du vin, à cet instant précis, il va renouveler la rédemption. Donc la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ dans son incarnation et dans sa rédemption. D'où la grandeur de la messe. On comprendra ce qu'est la messe quand tu n'auras plus, hein, pas avant. Autre phrase des pères, donc je répète les premières. Il s'est fait petit enfant pour que nous puissions devenir hommes parfaits. Il s'est entouré de l'ange pour que nous soyons libérés des liens de la mort. Il est né dans une crèche pour que nous puissions être sur les autels. Encore une fois, la crèche c'est l'incarnation, l'autel c'est la rédemption. Il vient sur la terre pour que nous allions au ciel. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par l'union de sa divinité avec notre humanité, va nous rouvrir les portes du ciel. Les portes du ciel qui étaient fermées depuis le péché d'Adam et Ève, eh bien, ces portes du ciel vont être rouvertes au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et donc, chaque messe étant le renouvellement du sacrifice de la croix, la messe nous rouvre les portes du paradis. On a besoin donc de la Sainte Messe pour pouvoir aller au paradis. La messe, à chaque fois que j'assiste à la messe, à Sainte Messe, la messe me donne en quelque sorte, indirectement, la petite clé qui va me permettre d'ouvrir les portes du paradis. Autre phrase des pères, il n'y a pas de place ici-bas pour nous en trouver une au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, monte au ciel pour nous préparer une place. Eh bien, par l'assistance à la Sainte Messe, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous prend littéralement pour nous amener au ciel ou nous a préparé une place. Sa pauvreté devient notre héritage, sa faiblesse, notre force. C'est saint Ambroise qui dit ça. Donc la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ va faire notre richesse, la faiblesse de notre Seigneur Jésus-Christ va faire notre force. Enfin, dernière phrase des Pères, Dieu se rend visible à nous pour que nous puissions inspirer après les choses invisibles. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, va cacher sa divinité derrière notre humanité pour qu'en acceptant de méditer devant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevions la divinité qui est cachée derrière cette humanité. Alors les Pères donnent le sens mystique, encore une fois, de ce passage. Donc c'est un commentaire de la phrase. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche puisqu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà le sens donné par les Pères. La crèche est faite pour les animaux, afin que l'âne et le bœuf puissent reconnaître leur maître. Le bœuf représente le juif sous le joug de la loi. L'âne, animal destiné à porter des charges, représente le gentil qui gémit sous la lourde charge de l'idolâtrie. Vous voyez comment les Pères de l'Église, justement, interprétaient tous ces détails qui semblent pour nous complètement puérils, pour justement nous aider à approfondir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le bois de la crèche représente le bois de la croix. Ce bœuf représente le joug de la loi, parce que le bœuf porte le joug pour traîner les charges. Le bœuf, surtout à l'époque, était utilisé pour traîner des lourdes charges, donc représente le juif sous le joug de la loi. Et l'âne représente, si vous voulez, le gentil, donc les non-juifs, qui gémissent sous la charge lourde de l'idolâtrie. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, va prendre cette charge qui semble trop lourde pour le bœuf et pour l'âne, afin de la prendre sur ses propres épaules. Autre comparaison donnée par les Pères, il y a des textes magnifiques ici. La nourriture des animaux, c'est la paille, mais les animaux raisonnables mangent le pain. Le pain de vie est mis dans cette crèche, lieu de la nourriture des animaux, afin que même les animaux sans raison puissent venir partager la nourriture des êtres raisonnables. Donc en mangeant sa chair, nous participons à la vie divine. Notre Seigneur Jésus-Christ devient le pain de vie, de même que notre Seigneur Jésus-Christ va nourrir les animaux domestiques, si on parle du bœuf et de l'âne, notre Seigneur Jésus-Christ va aussi nourrir, évidemment, de façon surnaturelle, il va nourrir les âmes. Il va nourrir les âmes en mourant pour elles sur la croix, et par cette mort sur la croix, devenir leur nourriture. C'est pour cela que juste avant de mourir, qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Il va instituer le mystère de la Sainte Eucharistie. Si d'autres phrases des Pères de l'Église, il y en a 8 là qui sont extraordinaires, je vous les cite. Le Christ, le roi des rois, est né pauvre et je cherche le confort et les richesses. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un endroit pour reposer sa tête, nous dit l'Écriture sainte. Et moi, je cherche les plaisirs, le confort, les richesses. La sagesse illimitée a choisi les peines de l'esprit et du corps, et moi, je recherche les plaisirs du corps et de l'esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, voyant que nous ne pouvons pas nous racheter, nous sommes incapables de nous racheter, je vous l'ai déjà dit, nous sommes capables de nous vendre, mais incapables de nous racheter, va nous racheter par sa mort sur la croix. Et alors que je recherche les plaisirs du corps et de l'esprit, bien notre Seigneur Jésus-Christ va subir les peines et du corps et de l'esprit. Les peines du corps, bien, c'est surtout toutes les sévices de la passion, le couronnement d'épines, la flagellation, la crucifixion. Et les peines de l'esprit sont manifestées justement au début de la passion, avant la passion en fait, par l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. Notre Seigneur Jésus-Christ a été triste à en mourir, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de tomber en désolation. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui tombe en désolation. J'explique souvent ça quand je parle avec les gens pendant les retraites, justement, pour leur dire, attention, ne vous découragez pas si vous êtes en désolation. Les désolations peuvent être très fortes, elles peuvent durer un certain temps. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est tombé en désolation. Celui que les cieux ne peuvent contenir s'enferme dans un petit corps sur une mangeoire et moi j'ai honte d'être méprisé comme un moins que rien. On retrouve un petit peu ici l'esprit des impropères du Vendredi Saint. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ va reprocher aux hommes tout ce qu'il a fait pour eux, et la réponse qu'il a reçue. Donc il a tout donné aux hommes, et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils crucifient notre Seigneur Jésus-Christ, ils le chargent de sa croix pour le crucifier au Vendredi Saint, au sommet du calvaire. L'étable nous dit être prête à devenir pour celui qui est tombé entre les mains des brigands un abri et un hôpital. N'oublions pas que si c'est la belle image aussi qui est représentée par la parabole de l'enfant prodigue. Qu'est-ce que la parabole, pardon, pas de l'enfant prodigue, la parabole du bon samaritain, excusez-moi. Parabole du bon samaritain, c'est le samaritain qui vient, qui trouve un homme à moitié mort sur le bord du chemin, qui est tombé entre les mains de bandits qui l'ont dévalisé, qui l'ont laissé à moitié mort. Et qu'est-ce que fait le bon samaritain? Les pères d'église expliquent ce qu'il fait en fait. Qu'est-ce que fait le bon samaritain? Le texte de l'évangile nous dit que le bon samaritain va verser l'huile et du vin sur les plaies pour guérir les plaies. C'est le symbole évidemment du mystère de la messe, du mystère du baptême, du mystère de l'extrême onction, et va charger le moribond sur sa propre monture. Et bien les pères expliquent tous de la même façon que cette propre monture du bon samaritain représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre notre humanité sur son humanité en portant la croix pour nous. Nous ne voulons pas faire pénitence, notre Seigneur Jésus-Christ fait pénitence pour nous. Nous ne voulons pas réparer pour nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ va réparer pour nos péchés. Nous refusons de reconnaître notre culpabilité à cause de nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre les conséquences de nos péchés sur ses propres épaules. L'étape, donc, devient un abri et un hôpital. Un hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On soigne les malades, on soigne les mourants. Nous sommes malades du péché et mourants du péché. La mangeoire nous avertit que la nourriture est prête pour l'homme qui était devenu comme une bête. C'est le symbole de la Sainte Eucharistie qui va nourrir notre âme, comme la paille, si vous voulez, qui est placée sur la mangeoire, va nourrir les animaux. Les larmes et les vêtements du Christ nous disent que les blessures de l'homme sont maintenant lavées et séchées. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur nous parce que je refuse de pleurer moi-même. Celui qui revêt la nature de sa beauté si variée est enveloppé dans de pauvres langes afin que nous puissions recouvrir la robe première de notre innocence. Donc les langes qui vont envelopper le corps de l'enfant Jésus après sa naissance représentent, disent les pères, la robe première de l'innocence qui était perdue par le péché d'Adam et Ève. Notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte nous aider maintenant à rattraper les conséquences de nos péchés personnels. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux voies pour aller au ciel, soit la voie d'innocence, soit la voie de pénitence. La voie d'innocence nous est fermée après le premier péché. Il reste la voie de pénitence. Et la voie de pénitence, c'est une voie pénible, on a peur de la prendre. Alors notre Seigneur Jésus-Christ commence par nous montrer l'exemple. En prenant notre humanité dans sa personne divine, il va prendre, couvrir en quelque sorte sa personne divine de notre humanité, afin que nous puissions récupérer la robe de l'innocence. Enfin, dernière phrase des pères, celui qui, par qui tout a été fait, voit ses mains et ses pieds comme enchaînés, afin que nos mains soient libres pour toutes sortes de bonnes œuvres et que nos pieds soient dirigés dans la voie de la paix. Donc il faut qu'avec mes mains, je puisse faire des bonnes œuvres au service de notre Seigneur Jésus-Christ et par les pieds, utiliser les chemins qui mènent au paradis. À moi de ne pas utiliser mes mains et mes pieds pour offenser le bon Dieu. Dernière phrase des pères de l'Église, donc en bas de la page 19. Le Christ a trouvé l'homme devenu charnel et animal jusque dans son âme, et il se place dans la crèche comme nourriture, afin que nous changions cette vie tout animale pour arriver au discernement et à l'intelligence digne de l'homme, nourri que nous sommes, non de l'herbe des champs, mais du pain céleste, du corps de vie. C'est pour cela que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à expliquer à ses disciples qu'il allait instituer la Sainte Eucharistie, qu'il allait nous donner en nourriture son propre corps et son propre sang par la Sainte Eucharistie. Il dit dans l'Évangile qu'à ce moment-là, la plupart de ses disciples s'en allèrent, l'abandonnèrent. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ va se tourner vers Saint-Pierre et lui dit « Et toi ?» Il se tourne vers les apôtres en fait et leur dit « Allez-vous vous aussi m'abandonner comme tous les disciples m'abandonnent ?» Et Saint Pierre a cette réponse magnifique. Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ devient tout petit pour que l'homme devienne grand. L'homme, Dieu, devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, dit Saint Augustin. Notre Seigneur naît non dans la maison de ses parents, mais dans un lieu étranger, en voyage. Parce que dans le mystère de son incarnation, il est devenu la voie qui nous conduit à la patrie où nous jouirons pleinement de la vérité et de la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ devient vie pour détruire la mort du péché que nous avons provoqué en nous. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour détruire la mort du péché. Et en bas de la page 19, je termine ce passage avec une phrase splendide de saint Ambroise. « Seigneur Jésus, je dois plus à vos humiliations qui m'ont racheté qu'aux œuvres de votre puissance qui m'ont créé. » Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand, disent les pères. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand en pardonnant qu'en créant. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand en manifestant sa miséricorde qu'en manifestant sa justice. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand lorsqu'il donne l'absolution en disant à un pécheur, je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand en faisant cela qu'en lançant les planètes dans l'univers, en créant tout l'univers. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. C'est pour cela qu'il est dit qu'il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. En fait, ça veut dire que le plus grand des actes de miséricorde que notre Seigneur Jésus-Christ puisse accomplir pour nous, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés est quelque chose d'extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, de par sa nature divine, souhaite plus pardonner que juger et condamner. De nature, il veut pardonner. Il veut exercer cette miséricorde, mais notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas non plus se dédire, ne peut pas se contredire lui-même. Donc notre Seigneur Jésus-Christ peut, dans sa miséricorde, sauver une âme au dernier moment, à la fumée des cierges, on voit très bien avec Saint Dismas, le bon larron, simplement parce que ce dernier, qui avait passé sa vie dans le péché, dans l'offense à Dieu, dit au bon Dieu au moment de sa mort, juste avant sa mort, « Souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. » C'est un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il voit un début de bonne volonté chez Dismas, et tout de suite lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Notez qu'il ne dit pas « Tu seras au paradis après 500 ans en purgatoire. » Non, « Aujourd'hui même. » La première personne à utiliser les mérites de la passion fut un bandit converti au dernier moment. Donc si Saint Dismas s'est converti au dernier moment, cela montre que notre Seigneur Jésus-Christ peut convertir n'importe qui. Hein? Donc il faut méditer cette phrase de Saint Ambroise, « Je dois plus à vos humiliations qui m'ont racheté qu'aux œuvres de votre puissance qui m'ont créé. » On a tendance à voir que la toute-puissance de Dieu, et on oublie la miséricorde. La miséricorde est capitale. Elle amène à la toute-puissance de Dieu. Mais attention, là encore il y a un grand mystère. Il faut faire attention à ces phrases qui sont très belles des pères, mais pas les interpréter de façon pécamineuse. Hein. La miséricorde de bon Dieu existe, mais il ne faut pas déconnecter la miséricorde de la justice. La miséricorde de Dieu existe. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde pour le pécheur repentant. Mais en même temps, cette miséricorde suit la justice. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ peut obtenir pour une personne qui est en train de mourir la grâce d'une conversion sincère, c'est le cas de Saint Dismas, juste avant la mort. Mais une fois que cette personne est morte, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de changement. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas, parce que ce serait une contradiction, notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant Dieu, ne peut pas envoyer au paradis quelqu'un qui est mort en tas de péchés mortels. Ce n'est pas possible. Notre Seigneur Jésus-Christ peut convertir à la fumée des cierges un gros pécheur, mais notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas mener au paradis une personne qui est morte en état de péché mortel. Rappelez-vous, ce que j'ai souvent expliqué, qu'il faut trois choses pour se convertir. Il faut du temps, il faut la grâce du bon Dieu et l'usage de notre liberté. Ici-bas, nous avons le temps, l'usage de notre liberté, la grâce du bon Dieu, tout est possible. Une fois qu'on est mort, on n'est plus dans le temps, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'usage de notre liberté, donc on ne peut plus changer d'état. Si je meurs dans l'état d'amour de Dieu, je garde cet amour de Dieu au paradis. Si je meurs dans l'état de haine de Dieu, je garderai, hélas, cette haine de Dieu pour toute l'éternité en enfer. Voilà, nous allons arrêter là. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Donc, nous commencerons. Nous sommes maintenant au sommet de la page 20 sur le polycopier. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.